Vous êtes bien sur RVM, ne quittez pas.
Bienvenue dans l'économie pour tous, l'émission consacrée à l'explication des grands phénomènes économiques et sociaux contemporains à travers l'actualité, par Renaud Chartoir, professeur de sciences économiques et sociales, et son complice Éric Carlier. Bonjour Renaud.
Bonjour Eric.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Écoute, dans la période de confinement dans laquelle nous sommes et face quand même à l'ampleur du désastre sanitaire, forcément on est touché par la situation, mais sinon à titre personnel, j'essaye de faire en sorte que cette période de confinement se passe le moins mal possible. Et toi-même?
Eh bien écoute, je peux dire à peu près la même chose que toi. Nous sommes tous assez plombés par les informations, mais heureusement, nous avons la possibilité de temps en temps d'essayer de penser un peu à autre chose. Et le fait de te retrouver deux fois par semaine pour l'enregistrement de cette émission fait partie des choses qui m'aident à surmonter la morosité ambiante.
Et bien évidemment, nous avons une grande pensée pour toutes les personnes qui sont directement ou indirectement touchées, eux ou leurs proches, par cette pandémie.
Bien sûr. Alors, puisqu'on parle de cette pandémie, justement, nous en étions dans le déroulement des différentes émissions que nous avons faites à une étape où tu étais sur le point de nous parler un petit peu de la mise en œuvre des mesures prises par l'État, par le gouvernement, pour faire face à tout ce que tu avais expliqué précédemment, c'est-à-dire les chocs de demandes négatives, le choc de demandes positives et le chômage qui s'ensuit. Donc, la récession globale des entreprises.
C'est ça, c'est ça. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'à court terme, on peut faire face à cette récession économique? Et donc, face à ça, on peut dire que si on se retourne un peu sur le passé et sur l'histoire économique, on peut dire fondamentalement que l'on a trois scénarios possibles entre les mains des gouvernements actuels. Alors je dis tout de suite, tous les gouvernements de tous les pays occidentaux développés ont tous pris la même voie. Donc on va voir qu'il y a un des trois scénarios qui a été retenu. Il y en a un, c'est le premier, c'est sûr qu'il ne sera pas retenu, c'est celui qui a suivi 1929, puisque on a vu la catastrophe que ça a été. Donc le premier scénario, c'est de dire qu'on croit dans cette économie de marché capitaliste et on croit dans la capacité des marchés à s'auto-réguler et que une crise économique n'est qu'un épiphénomène que le marché est capable de gérer par lui-même. Alors concrètement, ceux qui pensent ça proposent quoi? Eh bien, surtout que les gouvernements ne fassent rien, surtout que les gouvernements ne s'endettent pas, parce que c'est comme un sportif qui se doperait. Ça peut fonctionner à très court terme, mais à long terme, c'est très mauvais pour sa santé et très mauvais pour ses performances. Donc, simplement, la récession, il faut l'accepter, il faut l'acter, elle est là. Et puis, simplement, à la fin du confinement, on fait confiance que les besoins immenses seront toujours là, donc que les consommateurs retourneront consommer massivement. Et donc, forcément, les entreprises produiront et la récession s'arrêterait d'elle-même. Alors cette doctrine ultra-libérale, on peut dire, c'est celle qui a été mise en place en 1929. Après 29, les gouvernements ne font rien, avec le succès que l'on a vu, puisque la crise a duré 4 années entières, avec un nombre de chômeurs absolument record et une baisse du PIB comme on n'en a pas connu depuis. Donc, clairement, ce n'est pas la solution qui est retenue actuellement. Ce n'est pas le laisser-faire, laisser-aller. C'est au contraire une deuxième solution possible, et qui est celle qui est retenue actuellement, c'est celle de 2008. C'est-à-dire qu'à la suite de la crise de 2008, très massivement, les États se sont très fortement endettés pour aider les banques, pour soutenir l'économie. Les banques centrales ont inondé les marchés financiers de liquidités pour que les banques puissent prêter beaucoup plus facilement aux entreprises et aux agents économiques d'une manière générale, afin justement de soutenir cette activité.
Et alors, là-dessus, on a l'impression, Renaud, qu'il y a une espèce de contradiction entre le discours officiel tel qu'on l'entend depuis le retour de l'ultralibéralisme, depuis les années Reagan, et dans ce discours, on prône la non-intervention de l'État, on prône la liberté des marchés, on prône la libre concurrence, ce genre de choses. Et puis, là, tu es en train de nous dire que l'État intervient massivement lorsque c'est nécessaire, comme ça a été le cas en 2008. Il n'y a pas là une contradiction?
Oui et non. première moitié du XXe siècle, on est dans une économie très très libérale où l'État se contente d'intervenir à minima pour ses fonctions régaliennes, c'est ce qu'on appelle l'État gendarme. Et puis la crise de 29, Roosevelt, ensuite les 30 glorieuses, hein, je ne vais pas refaire toute l'histoire. L'État-providence s'impose comme le moyen que le système économique a trouvé pour permettre de réguler ces crises et d'éviter justement des petits trous d'air qui peuvent arriver dans une économie libre. À partir de la fin des années 70, effectivement, grand retournement de tendance. Un, lié à la crise de 73-74, qui a montré que ces solutions-là, qu'on appelle les solutions keynésiennes, ne fonctionnaient plus. Et puis deux, le grand retour sur le devant de la scène des économistes qui défendaient depuis toujours le projet libéral, qui était réuni au sein d'une société qui s'appelait la Société du Mont Pèlerin, et qui était menée par un économiste qui s'appelait Milton Friedman, et qui a été le chef de file de cette révolution libérale, qui politiquement s'est incarnée par un homme politique et une femme politique que tu as cité tout à l'heure, bien évidemment.
Ronald Reagan et Margaret Thatcher.
Voilà, c'est ça exactement, qui ont été le visage de cette contre-attaque libérale. Et effectivement, entre le début des années 80 et la fin des années 2000, on peut le dire clairement, on assiste à un grand retour en force des politiques libérales, avec des vagues de privatisation, de coupes dans les dépenses publiques, de transformation des systèmes de protection sociale publique en systèmes beaucoup plus privés, avec une logique de rentabilité. Donc effectivement, tout ça, c'est vrai, ces politiques libérales, elles sont mises en place. En 2008, on a la crise que l'on a. Et ce qui est très étonnant, et c'est là où je réponds à ton intervention de tout à l'heure, c'est que même les économistes libéraux, en fait, en 2008-2009, militent pour l'intervention de l'État, pour sauver les banques et sauver le système. Et leur argument est le suivant, c'est de dire que la règle générale, c'est qu'il ne faut pas que l'État intervienne, ou en tout cas, l'État intervienne à minima. Mais quand vraiment la situation est exceptionnellement grave, eh bien, dans ce cas-là, oui, l'intervention de l'État est nécessaire parce que sinon la crise peut être tellement forte qu'elle peut tout emporter sur son passage. Je rappelle quand même que le 15 septembre 2008, lorsque Lehman Brothers fait faillite, eh bien, carrément, ça peut être la fin du capitalisme, à peu de choses près. Parce que ça veut dire que potentiellement, en 48 heures, toutes les grandes banques américaines peuvent ensemble faire faillite. Alors là... Bon, et donc, face à cette situation exceptionnelle, les pro-capitalistes vont dire qu'il faut à tout prix que la Banque centrale, les États interviennent et viennent sauver le système. Donc, en ce sens-là, même les économistes libéraux admettent que parfois, hein, c'est comme quand tu fais de l'insomnie, on peut dire, bon, c'est pas bon de prendre des somnifères, mais exceptionnellement, là, du fait de la situation, tu vas en prendre. Mais là où tu as raison, Eric, et là où tu as raison, je termine juste, j'étais un peu long, hein, désolé, mais là où tu as raison, c'est que après, à partir de 2012, effectivement, une fois que ça y est, on est sorti de la crise de 2008-2009, eh bien, ces mêmes économistes nous disent, enfin, disent aux États, attention, vous avez rempli votre rôle, maintenant, on revient avant. Donc, baisse des dépenses publiques, baisse des prélèvements obligatoires, baisse des déficits, politique d'austérité et de restriction.
D'accord. Très bien. Bon, on pourra, j'imagine, dans la fin de cette série d'émissions, longuement discuter aussi de toute la théorie économique qui préside aux choix politiques qui sont faits actuellement, parce qu'il y a un grand débat là-dessus. Mais là, tu allais nous parler de l'intervention spécifique de l'État français dans l'économie suite à la crise.
Voilà. Donc, en fait, c'est cette deuxième solution-là qui a été retenue, à savoir faire comme en 2008-2009, c'est-à-dire de remettre en avant le poids de l'intervention publique comme sauveur, hein, comme deus ex machina, c'est-à-dire comme d'un seul coup un agent extérieur qui vient et qui vient soutenir, qui vient remettre de l'essence dans le moteur par ses dépenses publiques, par ses mesures de soutien. Aussi la banque centrale, les banques centrales, mais ça, on en reparlera dans une autre émission.
Alors, donc, en quoi consiste cette aide en France, René?
Alors, c'est pas très original, hein, parce que c'est à peu près le type d'aide qui est mis en place dans tous les pays occidentaux développés. Ça consiste à la fois à lutter contre le choc de demande négatif et contre le choc d'offre négatif, en soutenant à la fois la consommation des ménages et en soutenant la capacité des entreprises à ne pas faire faillite. Donc, du côté, par exemple, de la consommation des ménages, c'est l'application du chômage partiel. En expliquant aux personnes qui là ne peuvent pas travailler qu'ils vont globalement garder leur salaire. Je rappelle, je sais pas si tu le sais, Eric, quand on est au chômage partiel, on touche 84%.
80, ouais, c'est ça.
Voilà,
J'allais dire entre
84%.
80 et 85%.
Voilà, de son ancien salaire. Alors, il faut savoir que si on est au chômage, c'est au vrai chômage, ça serait beaucoup moins, puisqu'au maximum, c'est 55% de son ancien salaire et avec un plafond à 6 000 euros mensuels. Bon. Donc ça, c'est une mesure de soutien, justement, à la demande. C'est de dire aux personnes qui sont en difficulté actuellement, ne vous inquiétez pas, on vous maintient un niveau de revenu suffisant pour que vous puissiez quand même continuer à consommer.
D'accord. Et pour les entreprises?
Et alors, pour les entreprises, eh bien, il y a tout un ensemble de mesures. Donc, comme par exemple des prêts, hein, qui sont proposés. Enfin, en tout cas, l'État va garantir des prêts aux entreprises pour qu'ils puissent justement faire face à cette situation un peu compliquée.
Alors, c'est justement le moment où je te propose de mon intervention sonore du jour. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire un petit montage à la fois d'un extrait de l'allocution de notre président de la République lorsqu'il a parlé de cette aide aux entreprises, et puis un extrait d'un reportage de TF1 qui parle justement de la mise en œuvre matérielle de cette aide accordée par les banques. Donc, ça dure une petite minute et je te propose qu'on se retrouve juste après.
Avec plaisir, Eric.
Aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite. S'agissant des entreprises, nous mettons en place un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien au report d'échéances bancaires et de garantie de l'État à hauteur de 300 milliards d'euros pour tous les prêts bancaires contractés auprès des banques.
Pour bénéficier d'un prêt garanti par l'État, encore faut-il réussir à joindre sa banque.
C'est une honte, c'est inadmissible. Ça fait 2 semaines que j'essaye de joindre ma banque. Impossible, aucune réponse.
J'ai besoin de la banque pour me sauver de mon problème de trésorerie. Mon urgence, c'est de payer les salaires à la fin du mois d'avril.
Ce chef d'entreprise a 45 salariés. Il espère obtenir un prêt de 150 000 euros, mais sa société de transport routier a connu des difficultés dans le passé.
Aujourd'hui, j'ai un bilan 2019 qui est en nette amélioration par rapport à mes années précédentes, mais je crains qu'on ne tienne pas compte de mes derniers résultats et qu'on regarde ceux des années précédentes. Je suis dans une situation quasi désespérée.
Voilà, Renaud. Alors, comme tu as pu l'entendre, eh bien, il y a certes un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement pour garantir des prêts accordés par les banques, des prêts à taux zéro, mais leur mise en œuvre ne semble pas aussi simple qu'elle a pu le paraître dans le discours du président de la République. Alors, par exemple, est-ce que tu sais, suite à cette déclaration de Monsieur Macron, combien d'entreprises ont fait une demande de prêt pour bénéficier de ce prêt à taux zéro?
Non, non, Eric, je ne le sais pas.
Alors, en une semaine, il y a eu 40 000 demandes de prêts pour un montant moyen, pour chacune, hein, de 135 000 euros, ce qui est énorme. Donc, il faut savoir que ce prêt accordé aux entreprises pouvait être accordé jusqu'à un montant maximum de 25% de leur chiffre d'affaires annuel, donc un taux zéro. Néanmoins, il faut savoir, et ça on a pu l'entendre dans le reportage sonore qu'on vient d'écouter, que toutes les entreprises ne sont pas éligibles à ce dispositif puisque sont exclues par exemple de ce prêt garanti par l'État les entreprises dont la notation Banque de France est inférieure à 5+. 5+ correspondant à une qualification d'assez faible, c'est-à-dire que les canards boiteux, en d'autres termes, ne sont pas appelés à pouvoir bénéficier de ce prêt à taux zéro. Il y a d'autres limitations, évidemment, dans l'application de ce dispositif. C'est que les néobanques, par exemple, je ne sais pas si tu sais, probablement que tu le sais, Renaud, que c'est qu'une néobanque.
Non.
Bon, alors, non. Eh bien, il s'agit d'une banque par Internet. Hein, c'est-à-dire que tu sais qu'il existe aujourd'hui des banques 100% digitales et qui, elles, ne sont pas considérées comme des organismes de crédit, mais uniquement comme des établissements de paiement. Et ces banques, alors on peut citer parmi ces banques Conto, Shine, des choses comme ça, ces banques ne sont pas appelées à pouvoir proposer ce prêt à taux zéro garanti par le gouvernement. Et il faut dire que certaines entreprises donc, ont uniquement recours à ce type de banque. Et donc, elles-mêmes devront à ce moment-là adresser leur demande de prêt à une autre banque sans en être client, ce qui risque d'être beaucoup plus compliqué, tu peux l'imaginer. Et puis enfin, il faut savoir aussi que les banques qui vont accorder ces prêts vont demander des pièces comptables, des attestations, ce type de choses. Ça ne sera pas automatique. Les demandes de prêts ne seront pas couvertes forcément à 100%. Il va y avoir une appréciation du dossier de chacun. Et dernier, grosse épine dans le pied, c'est qu'il faut savoir que ce prêt à taux zéro n'est garanti que sur un an. Et certaines banques, face à l'ampleur du prêt qu'elles vont devoir faire, vont devoir étaler leur dette sur plusieurs années. 2 ans, 3 ans, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Et donc, quel va être le taux d'intérêt à ce moment-là? Eh bien, ça va dépendre du taux de refinancement des banques, que tu nous expliqueras certainement un petit peu plus tard dans le déroulement de cette série d'émissions. Il y a donc de nombreuses incertitudes face à ce dispositif.
Ouais. Alors, très rapidement, parce que je vois que l'heure tourne hein, pour notre émission, mais très rapidement, en fait, effectivement, face à cette situation, pour soutenir les entreprises, il y avait de la part de l'État 2 grands moyens d'action. Le premier, qui était simplement d'apporter une aide sonnante et trébuchante, de dire aux entreprises, voilà, on vous finance directement, on vous prête directement la somme. Sauf que le problème, c'est que l'État ne l'a pas, cette somme, en tout cas pas dans ces proportions-là. Donc quand Emmanuel Macron, par exemple, dit « je vais garantir les prêts des entreprises auprès des banques à hauteur de 300 milliards d'euros », ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'instant T, cela ne génère aucune dépense pour l'État français, ce n'est simplement qu'une garantie. Donc derrière cela, il y a quand même des règles du marché qui reste celle du marché. Et le but d'une banque n'est pas non plus de prêter nécessairement à perte. Parce que l'État a beau s'être engagé, la banque peut très bien se dire, ça se trouve l'État me remboursera dans 1 an ou dans 2 ans ce prêt que je viens de faire à une entreprise qui va faire faillite dans 2 mois, et qu'est-ce que je fais en attendant? Donc effectivement, la première façon d'agir aurait été d'aider directement les entreprises, mais manifestement, les finances publiques ne le permettaient pas. Donc ce qui a été choisi, c'est la deuxième façon, c'est de dire, à l'instant T, on ne vous aide pas directement, mais on met en place des conditions qui, l'espérons-nous, permettront aux banques de vous aider. Mais ça, effectivement, c'est un pari et ça reste dépendant des règles de marché qui sont internes au fonctionnement du système bancaire.
Très bien. Bon, malheureusement, le temps nous manque pour développer sur cette question. Donc, je te propose qu'on continue sur le même thème la semaine prochaine.
Exactement. Très bien. Nous continuerons la semaine prochaine parce qu'il faudra encore voir la troisième solution possible qui ne sera pas retenue. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup, Renaud.
Merci, Eric.
Et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Sur Radio Valois-Mulcien, vous venez d'écouter L'économie pour tous par Éric Carlier et Renaud Chartois.